le second de Victor Hugo d'un homme d'un siècle. Mais ce siècle est passé, parce que Victor Hugo, dans le troisième millénaire, est encore d'actualité. Victor Hugo est à l'ascension, considère plutôt l'homme de son temps au niveau littéraire, et donc en littérature, c'est intéressant d'approcher Victor Hugo. Mais il y a un autre aspect de Victor Hugo qu'on aborde un peu, c'est Victor Hugo, homme politique, leader de la gauche française dans les années quasi de 1850 à 1980, quoi, jusqu'à son décès, et qui a donc pris des positions très fortes, parfois même contre ses propres alliés, pour défendre les valeurs auxquelles il tenait. Victor Hugo était quasi la conscience de la gauche en France à l'époque. Évidemment, comme en toute politique, la conscience est très bien, mais parfois le pragmatisme obligerait à prendre des positions plus nuancées. Mais Victor Hugo, lui, en l'écoutant, c'était le rappel des grands thèmes et des grandes valeurs. Et les événements de la Commune furent vraiment l'occasion où Victor Hugo a mis en avant ses conceptions sociales, plus que n'importe qui ne l'avait fait à l'époque.
Dans quel roman on peut retrouver cette conscience politique, précisément?
Eh bien, on peut retrouver essentiellement cette conscience politique d'abord dans un roman qu'il a écrit quand il était justement à Bruxelles, dans les années 1850, qui s'appelle L'homme qui rit, qui est extraordinaire sur la façon. C'est prémonitoire quand même, presque 100 ans avant, finalement, un homme politique qui a des idées très généreuses et tout, n'arrive à rien en fonction de son image, puisqu'il était défiguré étant jeune, et c'est le type de l'homme qui rit. C'est une idée extraordinaire, et puis finalement, puisque son visage prête à rire, personne ne l'écoute. Là, déjà, Victor Hugo, c'est sur le fait que finalement, l'image importe plus que le fond, ce qui est un message extraordinaire. Mais si vous voulez connaître Victor Hugo, je parle surtout ici aux Belges, c'est de lire son livre Le Nez Terrible qu'il a écrit suite aux événements de la Commune, et dans lequel il relate ce qui est l'originaire du spectacle, tout ce qui s'est passé au moment où il était expulsé de Belgique.
Victor Hugo a connu l'exil, c'est à ce moment-là que peut-être chez un homme une véritable conscience politique. Alors, on est à l'extérieur et peut-être on a un autre regard sur son pays.
Victor Hugo a choisi l'exil comme instrument. Il n'a pas eu peur d'aller en exil pour dire je refuse. D'une manière assez forte de dire non. Alors qu'on nous disait, mais ben, reste dans le pays, accepte un petit peu les choses, on dit que non, il a dit je suis intransigeant, mais je vais en exil. Maintenant, Hugo en exil, c'est quand même Hugo qui pouvait se payer un immeuble assez important quand il était à Jersey et à Guernesey. Donc c'est l'exil, mais vraiment, c'est la position d'exilé qui chez lui est bien plus forte. C'est le fait de dire il y a des moments où il faut savoir renoncer à ce qui semble être des valeurs essentielles et plutôt des valeurs de présence pour dire je dirais mieux les choses en étant dehors parce que je ne veux pas être noyé dans le marasme quotidien. Et c'est donc c'est ce qu'il a fait.
Est-ce qu'on peut dire véritablement que Victor Hugo est un homme politique de gauche, ou en tout cas un écrivain, mais un homme tout simplement de gauche?
Si on prend l'avis de Victor Hugo, certainement pas au début, mais dès le début, il était humaniste, mais il a carrément viré à gauche et il est devenu un homme de gauche. Vous savez, c'est très étonnant, c'est que quand on enseigne Hugo, on parle de Hugo qui a créé Hernani, la bataille d'Hernani, et on parle de ses autres grandes œuvres, et puis on enterre complètement le Hugo qui apparaît après 1850, Hugo est né en 1802. Après 1850, Hugo devient vraiment, là, vraiment un homme politique, et il n'est quasi plus comme politique, il prend des positions politiques très fortes vis-à-vis de tout le reste. C'est un peu, d'ailleurs, dans le texte que j'ai l'occasion de lire, il prend des positions qu'il est quasi seul à prendre à ce moment-là. Il affirme le droit des peuples. Hugo, à ce moment-là, est en train, alors que la gauche ne l'a pas encore intégré, a souhaité l'enseignement public, a suscité le droit des femmes. Hugo est en train à susciter la sécurité sociale pour tous, alors qu'aujourd'hui, il ne commence qu'à apparaître au niveau de la gauche. Donc, il était déjà dans ses projets extrêmement en avance par rapport à ce qui se passait. Mais c'était un homme qui
commencé à faire le choix de la réunion de ces différents textes.
Ce ne sont pas différents textes, en réalité, c'est un morceau intégral de la vie terrible. J'ai fait ce choix parce que en 2002, avec les questions de Victor Hugo, nous avons voulu faire quelque chose et on s'est rendu compte que rien à Bruxelles ne rappelait sa présence, son expression en Belgique, et donc nous avons décidé de faire poser une plaque d'un texte que Hugo avait déjà publié dans les romans de l'époque, dans lequel il dit « Je me sens le frère de tous les hommes et l'autre de tous les peuples ». On fait mettre cette plaque sur la façade. À ce moment-là, pour le jour de l'inauguration, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de redonner un extrait de la terrible, un extrait où il dit, l'herbe est venue chez moi pour me tuer, etc., etc. Et donc, ce jour-là, devant tous les gens rassemblés sur la place des caractères de Bruxelles, j'ai donné ce texte. Puis, lisant l'ensemble du texte, j'ai dit, finalement, c'est une notion assez intéressante à mener, parce qu'il s'agit bien, je le précise, d'une notion culturelle, donc, qui est introduite par une explication des circonstances de l'écriture, de l'expulsion de Victor Hugo, et qui est suivie d'un débat sur qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui. Et c'est à partir de ça qu'on a créé cette animation dont le public a pu découvrir aujourd'hui quasi uniquement la partie centrale.
Alors, revenons justement sur le cause de l'expulsion de Hugo de la Belgique.
Donc, Hugo a publié ce texte sur lequel il dit si un homme de la communauté vient chez moi, je le recevrai, etc. En disant que même s'il est en justice, je le suivrai avant tous les principes. Et bien, suite à cette lettre, il y a eu donc une manifestation devant chez Hugo, manifestation dont on sait qu'effectivement, elle a été assez violente, il le relate lui-même, parce qu'on a quand même essayé de forcer sa porte, de tamponner sa porte, et c'était quasi des fous, disons-le carrément. Et l'un ou deux jours après, eh bien, le gouvernement belge a dit que Hugo devait être expulsé parce que c'était à cause de lui et de sa position que la manifestation avait eu lieu. Donc ce n'était pas les agresseurs qui étaient condamnés, mais Victor Hugo. Parce qu'il avait fait qu'il ne s'était donc pas tué, qu'il avait prendre position, avait provoqué cet incident, donc c'est lui qui était responsable, donc c'est lui qui l'a fait expulser. Ce qui est assez amusant, c'est qu'évidemment, il y a eu la surprise directement, il l'a fait, il y a eu toute une tempête, on s'est très inquiété du départ d'Hugo. Hugo, qui était en quittant la Belgique, s'est fait acclamer dans toutes les gardes qui lui passaient, il est arrivé au Luxembourg, et quand il est arrivé au Luxembourg, on a télégraphié à Bruxelles, monsieur Hugo, qui était la Belgique, ils ont respiré la sûreté. Et du coup, l'arrêté d'expulsion de Hugo n'a jamais été publié, et du coup, il n'a jamais eu force légale. Donc, Hugo a quitté la Belgique, et finalement, le gouvernement n'était pas tellement à l'aise. Elle était partie. Je dois dire que cet arrêté d'expulsion est passé devant le Parlement belge, et il n'y a que trois parlementaires qui ont osé le rejeter.
Quelles sont les questions qui sont le plus souvent posées à l'issue de cette animation?
Comment se fait-il que l'on enseigne pas ça à l'école? Comment se fait-il quand on voit les lignes de la commune, quand on voit les choses, les gens se disent ça, mais c'est génial, mais c'est vraiment là, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette répression? Comment se fait-il qu'Adolphe Thiers, qui a mené cette répression, soit finalement en France, un des hommes qu'on retrouve, les noms, on parle plus de ville. Mais tout ça, c'est une histoire qui est peu connue. C'est la commune de Paris qui reste malgré tout un événement sur lequel on préfère jeter un voile d'ombre. Or, c'est une erreur, parce que Hugo, s'il vous plaît, Hugo n'a jamais approuvé la commune, non pas parce qu'il a dit la commune a tort, mais il a dit vous ne pouvez pas réussir dans les conditions que vous trouvez et vous allez provoquer un drame. Donc, sentimentalement, je suis avec vous. Je veux effectivement que les droits des femmes augmentent. Je veux qu'on donne enseignement à tous les enfants. Je veux qu'on assure la sécurité, la santé à tous les pauvres et qu'on aide mieux les gens. Mais dans le système que vous allez engendrer une répression violente. Et donc, mais là où Hugo a réagi, c'est quand la répression est arrivée. Il a dit « Arrêtez, s'il vous plaît, vous n'avez aucune raison, ces gens ont été emportés. » Et quand il avait passé, il s'est intéressé, il s'est passé violemment, et on voit ce qui s'est passé. Expulsé de France, expulsé de Belgique. Ce qui est incroyable, quand on voit Hugo, c'est que, il faut se dire que cette année-là, 71, disons 72, Hugo, mort, enterré dans une fosse publique. Hugo meurt 10 ans après, 1 million de personnes sur les Champs-Élysées, enterré au Panthéon. Donc c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que voilà quelqu'un qui n'avait jamais renoncé à ses idées et qui finalement a été reconnu comme un des plus grands hommes de la France éconnue.
Actuellement, est-ce qu'il y a un Victor Hugo contemporain ou quelqu'un qui se rapproche dans l'écriture de par son engagement?
Nous suivons actuellement l'affaire d'expulsion de Marie Merlin et qui a été expulsée à un